The alert level in your region or a neighboring region is red. To curb the spread of COVID-19, gatherings with family and friends are prohibited, and travel between regions should be avoided. In red zones, it's also forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. Visit quebec.ca/coronavirus to learn more about the specific measures addressing the situation. Follow all the rules, all the time, no exceptions. A message from the gouvernement du Québec.
From New York, this is Democracy Now!
What do you want to call them? Give me a name. Give me a
white
name.
White supremacists and right
like me to condemn?
White supremacists and right
Proud Boys, stand back and stand by.
Stand back and stand by. President Trump refuses to condemn white supremacists during a chaotic first debate with Joe Biden. The president repeatedly heckled, interrupted, and insulted the former vice president as they sparred on the pandemic, right-wing violence, climate change, voting by mail, the Supreme Court, taxes, and more.
People out there need help.
But why didn't you do it over 20, in the last 25 years?
Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up.
You were a senator.
You're the worst president America has ever had.
Hey, Joe, let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe.
We'll air excerpts of the debate and get response. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. President Trump and former Vice President Joe Biden met in Cleveland, Ohio, Tuesday for the first of three scheduled presidential debates. It was a night filled with chaos and insults as Trump repeatedly mocked and interrupted Biden, who responded by calling Trump a clown and the worst president the nation has ever had. During one exchange, Trump refused to condemn white supremacists after being questioned by debate moderator Chris Wallace of Fox News.
What do you want to call them? Give me a name. Give me a
white
name.
White supremacists and right
like me to condemn?
White supremacists and right
Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a
FBI director.
This is a left-wing problem.
Soon after Trump said these words, the Proud Boys posted a new version of their logo with Trump's quote, "Stand back and stand by." The Southern Poverty Law Center describes the Proud Boys as a hate group whose leaders regularly spout white nationalist memes and maintain affiliations with known extremists. During Tuesday's debate, President Trump refused to tell his supporters not to engage in violence after the election. Trump also made false or misleading statements about climate change, the coronavirus pandemic, cases of election fraud, prescription drug prices, manufacturing jobs, Trump's political endorsements, and more. After headlines, we'll air excerpts of the debate and get response from around the country. The United States recorded 43,000 new coronavirus cases and over 900 deaths Tuesday as public health experts warned of a new wave of infections. In Florida, officials in Miami-Dade County say they won't fully comply with Republican Governor Ron DeSantis' order allowing bars, restaurants, and other businesses to reopen at unlimited capacity. The NFL said Tuesday it will suspend in-person practices for the Tennessee Titans and Minnesota Vikings after three Titans players and five staff members tested positive for coronavirus. Here in New York City, officials said Tuesday they'll begin fining people who refuse to wear masks in public after New York's coronavirus test positivity rate climbed above 3% for the first time in months. A new study by the United Hospital Fund finds about 4,200 children in New York lost at least one parent to COVID-19 this year, more New Yorkers than died in the September 11th attacks. Meanwhile, the American Academy of Pediatrics warned Tuesday coronavirus cases among children have soared since schools around the country reopened to in-person classes this fall. Children of all ages now comprise 10% of all U.S. coronavirus cases, compared to just 2% last April. India reported more than 80,000 new coronavirus cases over the last 24 hours, with the official death toll rapidly approaching 100,000. India's lead pandemic agency said Tuesday an antibody study suggests more than 60 million people nationwide have already been infected with coronavirus, 10 times the official count, but still a small fraction of India's population of 1.3 billion. India is second to the United States as the country with the most reported cases of COVID-19. This comes as the World Bank warns the pandemic has led to a rise in poverty in East Asian and Pacific nations for the first time in two decades, with as many as 38 million additional people set to fall below the poverty line this year. On Capitol Hill, House Democrats have introduced a slimmed-down coronavirus stimulus bill in a last-ditch effort to get Senate Republicans to agree to another round of relief ahead of the November election. The $2.2 trillion aid package would restore $600-a-week enhanced unemployment benefits and send another round of $1,200 stimulus checks to most U.S. taxpayers. It would also provide funding for small business loans, housing subsidies, election protection, aid to school districts and the U.S. Postal Service, and money for coronavirus testing and tracing. Senate Republican Majority Leader Mitch McConnell has repeatedly refused to take up the $3.4 trillion HEROES Act passed by House Democrats more than 4 months ago. A warning to our audience, the following story contains graphic images of police violence. In Texas, a county sheriff and local prosecutor have been indicted on felony charges of evidence tampering related to the police killing of Javier Ambler, an African-American man who was tasered to death during a traffic stop March of 2019 as he told officers, "I have congestive heart failure and I can't breathe." Ambler's death was recorded by the former reality TV show Live PD, but the footage was never publicly released. On Monday, a Williamson County grand jury indicted Sheriff Robert Chody and former county attorney Jason Nasur on charges they intentionally destroyed or concealed recordings of the killing. Both men face up to 10 years in prison if convicted. In Kentucky, Republican Attorney General Daniel Cameron said Tuesday he never asked a grand jury to consider homicide charges for the three police officers who shot into the home of 26-year-old African-American Louisville resident Breonna Taylor last March, killing her. Cameron was speaking with a Louisville TV station about the three white plainclothes officers who burst into Taylor's home as they served a no-knock warrant in March: Miles Cosgrove, Jonathan Mattingly, and Brett Hankison.
Well, basically, your question is about whether we recommended any murder charges against Cosgrove and Mattingly, and the answer is no. Ultimately, our judgment is that the charge that we could prove at trial beyond a reasonable doubt was for wanton endangerment against Mr. Hankinson.
Kentucky Attorney General Cameron is due to release recordings from grand jury proceedings in Breonna Taylor's killing today, following a judge's order they be made public. In immigration news, The Washington Post reports the Trump administration's planning mass raids in pro-immigrant sanctuary cities across the United States. Immigration and Customs Enforcement could begin the operation in California as soon as this week and expand to other cities, including Denver and Philadelphia. Trump has repeatedly threatened to cut off federal funding to sanctuary cities if they don't comply with his immigration policies. In more immigration news, firsthand accounts continue to emerge of women who were seen by Dr. Mahendra Amin, the physician accused of performing forced sterilizations at the privately run Irwin Detention Center in Georgia. The New York Times interviewed 16 women who say they were treated by Amin, including women who had undergone invasive gynecological surgeries that were likely medically unnecessary. The Times reports Amin consistently overstated the risk of cysts or mass on the patient's reproductive organs and lied about the symptoms some women experienced to justify aggressive surgeries. At least one attorney had complained to Irwin's warden as far back as 2018 after a woman came forward with concerns about recent gynecological care she'd received while imprisoned at Irwin. In related news, BuzzFeed reports the Trump administration's dropped its years-long fight to block pregnant, undocumented teenagers in government custody from obtaining abortions. In the Democratic Republic of Congo, over 50 women are accusing workers with the World Health Organization and other international aid groups of sexual exploitation and abuse during efforts to fight Ebola between 2018 and 2020. In a new report by the New Humanitarian and the Thomson Reuters Foundation, the women detail multiple incidents of sexual violence, including allegedly being forced into having sex with aid workers in exchange for jobs. UN Secretary General Antonio Guterres has called for an investigation. In India, Amnesty International has been forced to shutter operations and lay off all staff after the Indian government froze its bank accounts following two reports published by Amnesty this month critical of the country's human rights violations. Amnesty staff say there's an incessant witch hunt of human rights groups by Prime Minister Narendra Modi's Hindu nationalist government. This is David Griffiths, director of the Office of the Secretary General at Amnesty International.
They're simply seeking to silence those who criticize them, those who call out human rights abuses in the country. We've seen a steadily intensifying series of attacks for several years. That is certain.
And in Mexico, authorities are bringing criminal charges against military soldiers for the first time in the ongoing investigation into the 2014 disappearance and likely massacre of 43 students from a teacher's college in Ayotzinapa, Guerrero. Mexican authorities announced Tuesday they've issued at least 25 arrest warrants against suspects believed to be the, quote, material and intellectual authors of the disappearance, including a former head of the federal police. Families of the disappeared students have long maintained the military was involved in the mass abduction. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman in New York City, joined by my co-host Juan Gonzalez in New Brunswick, New Jersey. Hi, Juan.
Hi, Amy, and welcome to all of our listeners and viewers across the country and around the world.
Well, President Trump and former Vice President Joe Biden met in Cleveland Tuesday for the first of three scheduled presidential debates. It was a night filled with chaos and insults as Trump repeatedly mocked and interrupted Biden, who responded by calling Trump a clown and the worst president the nation has ever had. Trump refused to condemn white supremacists after being questioned by debate moderator Chris Wallace of Fox News.
Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland?
Sure,
are you
I'm
prepared
willing
to specifically
do, that, but do it?
Well,
I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing.
So what are you saying?
I'm willing to do anything. I want to see peace.
Then do it, sir.
Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name.
White supremacists and right
like me to condemn?
White supremacists and right
Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a
left-wing.
This is a left-wing problem.
White supremacists. Antifa's an idea, not an organization.
Oh, you got it.
Not
militia.
That's what FBI director said.
Well, then, you know what?
We're done.
Soon after President Trump said these words, the Proud Boys posted a new version of their logo, including Trump's, quote, stand back and stand by. The Southern Poverty Law Center describes the Proud Boys as a hate group whose leaders regularly spout white nationalist memes and maintain affiliations with known extremists. After the debate, Proud Boys organizer Joe Biggs wrote, quote, President Trump told the Proud Boys to stand by because someone needs to deal with Antifa.
Thank you. and take you now, Your Honor.
Scientifique. À part Marie Curie, non.
Est-ce que vous pouvez me citer une femme qui travaille en technologie?
Non, malheureusement, non, je pense pas, non.
Bonjour, est-ce que vous connaissez une femme scientifique?
Non.
C'est pas étonnant. Les femmes en technologie, on n'en connaît pas vraiment. Même si elles représentent 20% de l'ensemble des personnes de l'industrie. Et en sciences, c'est pareil. Après les études, les femmes ne représentent que 20% des scientifiques. Mais celles qui œuvrent dans ce milieu sont passionnées. Elles foncent, elles doutent, elles cherchent. Et dans ce balado, elles se livrent à nous. Parfois à demi-mot, toujours à cœur ouvert. Ici Karine Mona, vous écoutez 20%.
C'est déjà la fin de la saison 2 du balado 20%. On termine avec un épisode enregistré en public lors du lancement de la saison le 11 février dernier 2020 à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science. Nous partons à la rencontre de Suze Jones et Julie Lavacek-Larondo.
Le Bienvenue dans cet épisode spécial de 20% au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie à Montréal. On est devant 80 jeunes filles du secondaire qui ont des questions pour nos deux scientifiques. Est-ce qu'on peut vous entendre, les filles? Suze Yuans, vous pouvez commencer.
J'ai grandi à Port-au-Prince, donc la capitale d'Haïti, et petite, j'adorais coudre. En fait, j'ai grandi dans l'école de couture de ma mère, donc déjà à 4 ans, j'avais ma clientèle qui était les poupées de mes amis. Par contre, côté génie, c'était pas le meilleur parce que ce que j'aimais faire, c'était d'attacher les chaises entre elles et mettre ma bicyclette en avant et je n'arrivais jamais à comprendre pourquoi les chaises ne suivaient pas la route.
Merci beaucoup, Suze, pour ces confidences. Et bien, Julie, à votre tour.
Je suis Julie Lavacek-Larondeau. Je suis moitié chilienne, moitié tchèque. Je suis née à Calgary, mais j'ai grandi pas mal toute ma vie à Montréal. Quand j'étais petite, j'étais convaincue que je voulais être peintre. Donc, très différent de ce que je suis devenue. Éventuellement, je suis allée vers la physique. J'adore le plein air. C'est quelque chose que vraiment, je continue à pratiquer même aujourd'hui. J'adore camper, escalader des montagnes. J'ai fait plusieurs randonnées avec un gros sac à dos, partir un mois dans le bois. Et j'ai aussi un merveilleux mari et deux jeunes enfants, un garçon de 5 ans et une fille de 1 an.
Julie Lavacek-Larondeau, vous êtes astrophysicienne à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle des trous noirs. Suze Yuans, vous êtes ingénieure civile et chargée de cours à l'École de technologie supérieure de Montréal, l'ETS, au département de génie de la construction et vous êtes spécialisée en vulnérabilité sismique des bâtiments. Suze, qu'est-ce qui vous a inspirée à devenir ingénieure?
Mais en fait, je vous l'ai dit, moi, j'étais partie pour être couturière. Et puis, quand je devais choisir ma profession, j'optais plutôt pour la finance ou l'économie. Parce que j'avais mon frère qui était ingénieur civil et ma sœur qui étudiait en architecture. Donc, je voulais pas suivre le reste de la famille. Mais finalement, je me suis inscrite à la faculté des sciences, donc la faculté de génie. Et sans nécessairement être prête pour l'examen d'admission, mais sur environ 1 500 à 2 000 étudiants qui étaient inscrits, j'étais 14e dans le concours d'admission. Donc je me suis dit, oups, eux, ils n'étaient pas prêts, moi je suis prête. Et j'ai choisi de continuer en génie. Mon premier sentiment, c'était, je suis bien meilleure que les autres, donc je vais rester.
Et donc, vous, Julie, qu'est-ce qui vous a inspiré à étudier l'astrophysique?
Je vous dirais que c'est pas quelque chose qui, dans ma vie, soudainement, d'un jour à l'autre, je me suis dit, je voulais faire l'astrophysique. J'ai toujours vraiment adoré les sciences quand je grandissais, les mathématiques aussi. Puis, je réalise maintenant qu'un des aspects qui a vraiment eu un grand impact, c'est le fait que j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère. Et ma mère elle-même était scientifique. Pour moi, ça a été toujours une inspiration, justement, voir peut-être les sciences, puis que les femmes étaient capables de faire les sciences aussi. En particulier parce qu'elle avait grandi au Chili. Et dans son temps, les femmes, ça allait pas en sciences, absolument pas. Mais elle était vraiment, depuis qu'elle était petite, passionnée. Elle voulait faire carrière là-dedans. Et elle avait même appliqué en secret pour une bourse qui permettrait de faire des études en sciences, mais en Russie. Et dans ce temps-là, c'était absolument mal vu qu'une femme quitte le pays pour aller faire des études. Mais ma grand-mère, donc sa mère, l'avait dit, tu prends cette bourse et tu vas faire ta carrière. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a dû apprendre le russe la première année et ensuite elle a fait un baccalauréat en chimie. Donc pour moi, c'était toujours quelque chose de super inspirant et j'ai réalisé que si la science m'intéressait, que j'étais capable de le faire, que si elle avait été capable de surmonter ses obstacles, alors moi aussi je serais capable. Et tranquillement, c'est ce qui m'a menée vers les sciences physiques, éventuellement astrophysiques.
Alors, vous ne serez pas obligé d'aller en Russie, c'est quand même la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Quel a été votre moment eureka, si je puis dire, pour choisir la physique? Justement, vous disiez votre maman était chimiste, hein, je crois.
Oui.
Donc, vous n'avez pas suivi exactement sa voie à elle. Donc, pourquoi plus la physique?
Ça a été peut-être au secondaire, justement. Donc, je voyais que les sciences, comme la curiosité, puis l'idée de découverte m'intéressaient. Et tranquillement, je me suis alignée vers les sciences, peut-être plus la physique et les mathématiques. Et je me rappelle qu'en secondaire 5, moi, j'étais au collège Jean Brébeuf, donc pas très loin d'ici. Et c'était la première fois où j'avais entendu parler des expos sciences. Et je me suis dit, ben, je vais me lancer là-dedans. Et j'avais choisi de faire un projet sur la téléportation. Parce que moi, je pensais à ce moment-là que la téléportation, c'était de la science-fiction. Je pensais pas que c'était réellement possible. Puis au fait, c'est de la physique. Maintenant, il y a énormément de chercheurs qui travaillent à rendre la téléportation possible. C'est des principes de base de physique. Et je me suis dit, mais c'est absolument fascinant, cet aspect de la physique. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à réaliser que c'est ce que je voulais faire plus tard.
Bon, ben finalement, on va peut-être aller en Russie, alors. Et donc, vous, Suze, à la fin du baccalauréat, vous commencez par un stage, donc en génie civil. Vous le disiez, c'était idéal pour travailler. Et je pense d'ailleurs que ce stage a continué un peu plus longtemps.
Oui, j'ai eu la chance. Et en fait, à la fin de mon baccalauréat, j'ai été recrutée par l'Agence canadienne de développement international, qui est Affaires mondiales maintenant. Et j'étais engagée comme stagiaire pour 3 mois. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas tester un peu mes apprentissages, tout ce que j'ai appris à l'école? Et ça me permettait de visiter le pays, parce qu'il y avait des projets un peu partout en Haïti. Donc, c'était vraiment d'aller recueillir des informations sur le terrain pour que les ingénieurs seniors puissent faire les rapports et faire le suivi. Et puis finalement, ça s'est transformé en un contrat d'un an. Et 11 ans plus tard, j'ai laissé Haïti avec un peu un pincement au cœur, mais j'ai passé 11 années fantastiques au niveau de la coopération canadienne qui m'a un peu préparée à mon parcours ici au Canada.
Donc 11 ans comme ingénieure civile, pour resituer un peu les dates, c'est en 2006 que vous décidez de partir d'Haïti pour venir ici. Comment vous faites votre arrivée?
Oui, en fait, c'était pas nécessairement facile parce que quand je laissais Haïti, j'avais quand même une carrière très intéressante et les gens me disaient, probablement que c'est une erreur que je fais de quitter mon emploi pour partir et recommencer quasiment à Montréal.
Pourquoi vous êtes partie?
Mais je suis partie en me donnant un rêve, en me fixant un objectif. J'ai eu la chance de travailler pendant que, à la coopération canadienne sur différents documents de sortie de crise. Donc, Haïti, écoutez, dès que c'est dans les nouvelles, il y a toujours quelque chose qui va mal. Et le dernier sur lequel j'ai travaillé, c'était en 2004, où on travaillait sur un programme de développement global. Et pour la partie sismique, pour la partie réponse des structures face au tremblement de terre, on n'avait trouvé aucun expert pour compléter cette partie de document-là. Donc, j'avais fait la blague et puis j'ai dit, mais je vais partir pour me spécialiser. Ce que j'ai fait, ce que j'ai repris comme objectif, comme un rêve, pour partir à l'aventure, si on veut, tout en me disant, si ça ne marche pas, je retourne en Haïti.
Et donc, arrivée à Montréal, vous avez repris les études supérieures.
Je me suis inscrite à l'ETS en maîtrise. J'ai été acceptée, donc j'ai dit déjà un premier pas. J'ai fait une maîtrise sur la vulnérabilité sismique des églises de Montréal construites avant 1945. Donc, c'est vraiment de voir dans quelle mesure les bâtiments vont résister à un éventuel tremblement de terre.
Et maintenant, j'aimerais entendre Julie un peu sur le parcours aussi. Donc, vous avez étudié la téléportation, le temps des expos sciences. Après ça, ça se concrétise à l'université. Racontez-nous un peu votre parcours.
Je suis allée à l'Université de Montréal pour faire un baccalauréat en physique, une maîtrise en physique. Puis ensuite, j'ai fait un doctorat à l'Université de Cambridge, en Angleterre. Et après, un postdoctorat à Stanford. Je peux vous dire très honnêtement que quand moi, j'étais à votre place, jamais je pensais être capable de faire des études dans une grande université comme Cambridge ou Oxford ou Harvard. J'avais entendu parler de ces universités, mais je pensais que c'était seulement des gens comme Albert Einstein qui étaient capables de se rendre à des universités comme ça. Et deux, financièrement, pour moi, pour notre famille, c'est absolument pas possible. Donc, j'ai même pas pensé à la possibilité de faire des études dans des grandes universités. Mais j'ai réalisé, grâce à des mentors que j'ai eus, en particulier à l'université, qui m'ont dit « Non, non, c'est possible, c'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Oui, ça prend des bonnes notes, mais t'as pas besoin d'être la meilleure ou le meilleur dans ta cour. Ça prend des bonnes notes, mais c'est quand même très faisable. » Et avec l'aide de ses mentors, j'ai réussi à rentrer dans plusieurs universités. Et une fois que tu rentres au doctorat dans des universités comme ça, c'est complètement financé. C'est l'université qui te paye, au moins pour les sciences. Et donc, financièrement, c'est aussi très accessible. Ça, c'est quelque chose que peut-être j'aurais aimé savoir quand j'avais votre âge, que si la science vous intéresse et peut-être voyager, aller voir d'autres universités aussi ou le monde en général, c'est vraiment plus accessible qu'on pense.
Et en voyageant, on découvre d'autres façons de faire des études supérieures. Donc, je pense que ça clôt cette première partie sur le parcours. Donc, on va prendre le temps pour répondre à vos questions surtout. Donc, allez-y, on vous écoute.
Est-ce que c'est difficile d'étudier en sciences?
En fait, moi, je trouve qu'il faut surtout avoir de la motivation. Quand j'étais au baccalauréat, c'est sûr que des fois, quand on a une aptitude aux sciences, c'est plus facile, mais ça irritait un petit peu mon papa dans le sens que moi, je me disais, moi, je suis prête, la veille des examens, je m'endormais très tôt. Et puis, je réussissais pareil, mais ça stressait tellement mon papa que j'avais dit, mais OK, mais je vais faire comme si je travaillais. Donc, à ce moment-là, je ramenais encore de meilleures notes. Donc, c'est sûr qu'il y a une aptitude, mais il faut aussi beaucoup de volonté, de motivation. Une fois qu'on les a, ça devient très, très facile, plus facile qu'on ne pense.
Dans mon cas, j'ai vraiment jamais été la meilleure de mes classes en sciences. J'étais bonne, mais vraiment pas la meilleure. Mais je pense que ça prend quand même une certaine discipline pour vouloir étudier puis être intéressé à la matière que tu étudies. Et là, ça devient beaucoup plus facile dans ce sens-là.
Est-ce qu'il y a une longueur moyenne aux études en sciences?
Oui.
En fait, ça dépend jusqu'où on veut aller. Le baccalauréat, généralement, c'est 4 ans, 4 ou 5 ans. La maîtrise, c'est environ 2 ans. Et puis, quand on décide d'aller au doctorat, c'est 4 ans additionnels qu'on ajoute. Ça, c'est pour une formation en génie, comme moi. Mais le temps passe vite. Le temps passe très vite. On est passionné. Et puis, je pense que c'est après coup que je me suis rendu compte que j'ai investi ce temps dans mon doctorat. La journée que j'ai fait ma soutenance de thèse, j'étais comme stressée. J'ai dit tout ça pour ça. Et puis je rentre dans ma voiture et puis d'un coup, je lève les deux bras en l'air et puis je crie. Et puis il y avait un camion à côté de moi et puis les deux personnes se sont mis à crier avec moi. Je suis sûre qu'ils ne savaient pas pourquoi, mais j'ai tellement apprécié ce moment. Mais ça passe vite.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir scientifique?
Oui, je dirais ma maman. L'environnement où j'ai grandi, c'était vraiment... étant donné que j'avais cet exemple présent dans ma vie, pour moi, quand je grandissais, tout ce qu'on m'avait dit, c'est ta seule responsabilité, c'est l'école. Tu fais le mieux que tu peux, mais t'as pas besoin d'être la meilleure et t'as pas besoin de choisir dès maintenant ce que tu veux faire. C'est toi-même qui trouve qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'intéresse. Ça, j'ai vraiment apprécié parce que on m'avait jamais dit en grandissant que je vais aller en médecine ou je devais devenir avocate ou peu importe. C'est à moi de trouver qu'est-ce que j'aimais.
Ce qui m'a le plus poussée à continuer au doctorat, c'est le tremblement de terre et de Port-au-Prince en 2010. J'ai fait ma soutenance quelques jours après le tremblement de terre et je me suis dit, probablement que je ne suis pas encore prête, je dois aller plus loin, apprendre et plus pour pouvoir apporter une solution au très grand risque qu'il y a en Haïti.
Pendant votre parcours à l'université ou même après, est-ce que vous avez eu de la difficulté à balancer votre vie sociale et vos études?
Moi, j'ai eu ma fille pendant ma maîtrise et mon fils pendant mon doctorat.
Je pense que ça répond pas mal à la question.
Oui, j'ai réussi à le faire. C'est pas facile. J'ai eu le soutien de mon mari. D'ailleurs, j'ai 2 enfants à papa quand maman n'est pas là, mais c'est pas trop grave. Mais ils sont toujours très contents de me revoir. Mais ça se fait. Mais je vous dis, j'ai eu beaucoup de support de ma famille aussi. Donc, pour le doctorat, on a différents examens. Au premier examen, j'étais enceinte de quasiment de 7 mois. J'avais perdu le souffle. Mais j'ai réussi à convaincre le jury que ma démarche faisait du sens.
Moi, j'ai eu mes enfants. Mon garçon, je l'ai eu quand je venais de commencer mon poste en tant que professeure à l'Université de Montréal. Je suis arrivée en poste 6 mois enceinte. Donc, ça, c'est... on part comme ça. Puis, je dirais que 2 aspects clés que j'ai vraiment remarqué, c'est un, ton partenaire est extrêmement important. C'est un travail d'équipe, élever des enfants. Puis, le deuxième aspect, c'est qu'au Québec, on est vraiment bien pour l'aspect de conciliation travail-famille. On a des congés de maternité, on a des congés de paternité. J'ai beaucoup de collègues qui sont, par exemple, aux États-Unis où les congés n'existent pas. Donc, je trouve qu'ici, on a la chance de faire la balance entre les deux beaucoup mieux.
J'aimerais qu'on s'applaudisse pour cette première session. Merci les filles pour vos questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Donc, on va passer à la deuxième partie sur votre travail scientifique et ce qui vous anime au quotidien. Julie, vous étudiez le rôle des trous noirs alors dans la formation et l'évolution des galaxies. Peut-être quelques définitions là, des trous noirs, on n'en croise pas tous les soirs au souper.
Donc, Mais c'est bien qu'on les croise pas.
Paraît-il. Dites-nous tout.
OK, donc les trous noirs, c'est vraiment des objets fascinants. Maintenant, on est à 100% certain que ça existe. C'est des objets qui sont extrêmement compacts. Et une des conséquences de ça, c'est que dès que tu rends un objet puis tu le compactes, sa gravité augmente. Puis les trous noirs ont une gravité qui est tellement forte qu'il n'y a absolument rien qui peut s'échapper. Même la lumière ne peut pas s'échapper. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des trous noirs. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au début, il y a à peu près 100 ans, quand Einstein avait fait plein de découvertes, il avait découvert entre autres la relativité générale. Ça vous dit peut-être quelque chose. Grande, grande découverte. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette découverte prédisait, mais clairement, que des objets comme les trous noirs devaient exister. Et pour Einstein, c'est tellement bizarre. Il disait comme, mais comment est-ce que l'univers va créer un objet aussi compact que ça? Ça se peut juste pas. Donc, Einstein avait complètement ignoré ses résultats. Toute la communauté scientifique avait ignoré ses résultats. Et ça a pris à peu près 50 ans pour que les astrophysiciens commencent à penser et à observer des objets qui, oh, ça ressemble vraiment à des trous noirs. Peut-être que ça existe. Puis maintenant, on s'aperçoit que toutes les galaxies dans l'univers, l'univers contient des milliards de galaxies. Chacune de ces galaxies va contenir un immense trou noir dans son centre. Et ce trou noir est tellement puissant qu'à lui seul, il est capable de détruire facilement et rapidement des galaxies entières. Ça, c'est vraiment ma spécialité, c'est de comprendre c'est quoi un trou noir exactement, qu'est-ce que ça fait sur ces galaxies, c'est quoi son rôle dans l'univers. Puis on s'aperçoit qu'il joue vraiment un rôle crucial pour expliquer toutes les propriétés de l'univers.
Et alors, comment on étudie ces trous noirs? Parce qu'on l'a compris, vous n'êtes pas allé dans l'espace encore.
Non, malheureusement.
Donc, comment on les observe?
Oui, donc ça, c'est en astrophysique, l'outil qu'on a pour étudier tout ce qu'il y a dans l'espace, c'est des télescopes. Malheureusement, on ne peut pas nous-mêmes aller explorer. Ça n'arrive pas très souvent qu'on va explorer les planètes et tout. Mais on utilise des télescopes qui, eux, récoltent beaucoup de lumière. En gros, si on a une étoile, par exemple, qui est dans le ciel, notre télescope va récolter la lumière de cette étoile. Puis les trous noirs, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'ils sont noirs parce qu'il n'y a rien qui s'échappe, même la lumière ne peut pas s'échapper. Donc, comment est-ce que tu fais pour étudier un objet qui est noir, qu'on ne voit pas? Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est que ce trou noir, à cause de sa gravité incroyable, tout autour de lui, il va attirer beaucoup, beaucoup de matière vers lui. Et cette matière, elle va émettre la lumière qu'on observe avec nos télescopes. Puis c'est comme ça qu'on arrive à mieux le comprendre et à mieux l'étudier.
Notez vos questions. Moi, j'en ai plein. Je me retiens, mais... Donc, Suze, comment on anticipe les risques sismiques?
En fait, le risque en lui-même, c'est 3 grands paramètres. Donc, le danger. Donc, est-ce qu'on est dans un pays, est-ce qu'on est dans une zone où on peut avoir des tremblements de terre? Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est le bâtiment lui-même. Est-ce qu'il a été conçu pour résister aux tremblements de terre? Et c'est sur cet aspect-là qu'en tant qu'ingénieur, on peut faire diminuer le risque. et puis les enjeux qui sont, c'est quoi comme activité qu'il y a dans le bâtiment. Souvent, il y a certaines catégorisations, donc on a déjà des grandes classes de bâtiments. Est-ce que ça a été construit avant l'application de normes ou après? Généralement, après, ça va marcher. Donc, quand on prend les bâtiments qui ont été construits avant, il y a différents aspects, par exemple, la forme du bâtiment. Est-ce que on a des formes comme, je vais prendre des lettres, un T, un E, un L, versus juste un rectangle? Parce qu'on imagine que le tremblement de terre va faire bouger le bâtiment. Et donc, par rapport à sa forme, il y a des contraintes qui vont se développer. Et donc, des risques de dommages ou d'effondrement. On va regarder les aspects verticaux. Donc, est-ce que c'est proche d'un autre bâtiment? On va regarder c'est quoi le type de sol sur lequel il est construit. Donc, il y a différents paramètres qui vont permettre de trouver la faille, si on veut, au niveau des bâtiments existants. Donc, moi, j'ai étudié les églises en maçonnerie de pierre. C'est une approche qui est différente parce qu'on se dit que le bâtiment va réagir, va se comporter différemment. Et j'ai aussi étudié les hôpitaux de Montréal. Pour les hôpitaux, l'intérêt est différent dans le sens que l'hôpital, lui, il peut pas se permettre de s'effondrer. On ne peut pas l'évacuer, donc il doit rester fonctionnel.
Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans votre travail?
En fait, c'est la simplicité d'une conception parasismique. On se dit, ah, mais le bâtiment doit résister au tremblement de terre, donc on imagine que ce serait très complexe. Oui, en termes d'analyse, on peut aller un peu plus dans la complexité, mais les réponses sont quand même très simples. Parce que le tremblement de terre n'est pas une fatalité. C'est le dommage sur lequel on peut agir. Le comportement de la structure, on peut agir dessus. Et de manière assez simple.
Super. Eh bien, c'est parti pour cette deuxième séance de questions. Alors, on vous écoute.
J'avais lu dans un livre qu'ils avaient fait une expérience sur Terre. Ils avaient mis une horloge près de la Terre, puis une plus en hauteur. Puis on voyait que l'horloge qui était près de la Terre, le temps allait moins vite, il me semble. Est-ce qu'un trou noir, vu qu'il y a beaucoup de gravité, est-ce que le temps va être perturbé?
Oui, absolument. Les trous noirs sont les objets dans l'univers qui perturbent le temps le plus. On ne connaît rien d'autre qui le fait. La façon de peut-être comprendre un peu plus pourquoi, c'est que si on reprend ton exemple de l'horloge, tu la mets proche de la Terre, elle ressent plus la gravité de la Terre. Si tu prends la même horloge puis tu la mets dans l'espace, elle ressent presque plus la gravité de la Terre. Et la façon de comprendre ça, c'est que l'horloge qui est sur Terre, pour qu'elle puisse travailler puis que le temps avance, ça lui prend de l'énergie parce qu'il faut qu'elle contrebalance la gravité. Tandis qu'en haut dans l'espace, elle n'a pas besoin de contrebalancer la gravité. Donc, elle avance dans un sens plus vite. Donc, ça, c'est une façon de le comprendre. Et les trous noirs sont vraiment extrêmes. Techniquement, l'horloge avancerait tellement lentement que si nous, on voyait quelqu'un tomber dans un trou noir, selon nous, ça prendrait à la personne une infinité de temps pour qu'elle tombe sur le trou noir tellement que l'horloge est ralentie. Donc, c'est vraiment l'aspect extrême.
Est-ce qu'un trou noir bouge? Et si oui, qu'est-ce qui arriverait s'il était trop proche de la Terre?
Donc oui, les trous noirs bougent. C'est vraiment des super questions. OK, donc, est-ce que vous avez entendu parler des ondes gravitationnelles? OK, grosse découverte il y a quelques années. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait deux trous noirs qui étaient très, très proches l'un de l'autre. Donc, ils ressentaient leur gravité. Et quand ça arrive, ils vont commencer à être en orbite un autour de l'autre, puis éventuellement, ils vont fusionner. Donc, des trous noirs peuvent bouger sous l'effet de gravité sans problème. Et en faisant ça, il y a tellement de masse compacte qui bouge que ça crée des perturbations, ça crée des ondes. Exactement comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, vous créez une perturbation, ça crée des ondes. Mais c'est la même chose, deux trous noirs vont créer des ondes. Ça, c'est les ondes gravitationnelles qu'on a détectées. Mais pour ressentir la gravité d'un trou noir, il faut être très, très proche du trou noir. Si, par exemple, notre Soleil devenait un trou noir demain, ce qui ne va pas arriver, mais si ça devient un trou noir, la Terre est tellement loin qu'elle ne ressentira pas l'effet. Elle va juste continuer son orbite comme si de rien n'était. Il faut vraiment être proche du trou noir pour ressentir son effet.
Ben, vous dites que c'est comme un trou, les trous noirs, comme... mais dans le fond, le trou... il va où?
Ah, ça, c'est le grand mystère. c'est on croit à Einstein, puis avec sa théorie de la relativité. Ce que ces mathématiques nous disent, c'est qu'au centre du trou noir, tout ce qui a été compressé va se retrouver en un tout petit point qu'on appelle une singularité. Okay. Ça, c'est un tout petit point minuscule qui est techniquement infiniment dense et infiniment petit et que tout est compacté là. Le problème, c'est que les physiciens, on n'aime vraiment pas tout ce qui est petit à ce point-là parce que nos lois ne marchent plus. Tout ce qu'on connaît de la physique, tout ce qui décrit la gravité, tout ce qui décrit les atomes et les particules ne marche plus quand c'est un tout petit espace comme ça. Donc ça, c'est un grand problème. Il y a énormément de chercheurs qui essaient de voir est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est quelque chose d'autre. Il y a des nouvelles théories qui viennent de sortir qui disent que c'est peut-être pas un tout petit point, mais quelque chose d'un peu plus grand. On n'a aucune idée pour l'instant. C'est un grand mystère. Mais si ça t'intéresse, peut-être dans le futur.
En ce qui concerne la vulnérabilité sismique, vous avez dit que vous avez étudié les hôpitaux à Montréal et je me demandais un peu qu'est-ce que vous avez découvert.
L'objectif, en fait, c'était de développer une méthodologie pour évaluer justement si les hôpitaux et les systèmes critiques des hôpitaux vont rester fonctionnels après un tremblement de terre. Ce que j'ai développé, c'est une méthode basée sur les codes, basée sur ce qu'on a l'habitude de faire. L'innovation, c'est aussi ça, c'est voir quelque chose de, en fait, quelque chose d'habituel sous un autre angle. Ce que j'ai pu faire, c'est vraiment donc de partir de certains constats, de certaines évaluations qui pouvaient déjà être faites à partir du code et proposer un cadre pour évaluer si les systèmes critiques vont rester fonctionnels. Parce que dépendant de l'hôpital, les systèmes critiques sont différents. Si on prend un hôpital important, ils ne peuvent pas évacuer. Alors que si, par exemple, on prend un hôpital psychiatrique où il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de chirurgie qui se fait, donc il y a la possibilité d'évacuer. Donc, c'est vraiment de prendre en compte les différents aspects, les différents besoins des hôpitaux pour une meilleure évaluation. Je pense que c'était un des éléments les plus importants qui ressortait aussi.
Mais nos hôpitaux vont bien.
Oui, les hôpitaux vont bien.
Tout va bien. Merci. Mais on va s'applaudir pour cette deuxième session. Merci. Donc là, pour cette troisième partie, donc on va parler d'être une femme en science. Et pour ça, j'ai une question pour vous. Combien de femmes scientifiques vous connaissez? Ben, on a du 2, 1, 2. Ah, quand même, on a un 10, donc peut-être plus. Et donc la première, si vous deviez me dire un ou deux noms, Marie Curie, donc... Et en deuxième moitié de salle, qui me dites-vous ?
Julie Payette.
Parfait, merci beaucoup. On va profiter de ces exemples-là pour vous demander à vous, à quel moment vous avez réalisé que vous étiez une femme dans un monde d'hommes. Si je commence par Julie, par exemple.
Je me rappelle que quand je décidais qu'est-ce que je voulais faire plus tard, donc les sciences m'intéressaient, mais j'avais pas encore la notion de femme en sciences. Je voyais pas pourquoi ça serait différent entre les femmes et les hommes. Puis je me rappelle que quand je suis rentrée en physique au baccalauréat, on était 20% de femmes parmi tous les hommes, donc il y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Puis c'est là que j'ai commencé peut-être à penser, mais pourquoi? C'est, à ce moment-là, moi, je pensais tout simplement que les femmes s'intéressaient moins à la physique, que c'est juste pas dans leur intérêt. Mais j'ai commencé à réaliser avec le temps que c'était vraiment plus complexe que ça. Il y a une étude qui m'a énormément marquée, qui m'a fait réaliser qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette question encore à ce jour. C'est une étude qui s'appelle le Howard Hyde Study, qui a été fait au Harvard Business School. C'est une école avec des personnes à travers le monde. Ils ont déjà des diplômes universitaires. Ils sont 400 personnes. Puis ils ont donné un CV à un groupe. Puis ils ont donné exactement le même CV à l'autre groupe. Mais la seule différence, c'était le prénom. Donc Howard pour un groupe et Heidi pour l'autre. Et ils ont demandé, est-ce que vous engageriez cette personne? Le groupe qui avait le CV de Howard disait, oui, c'est quelqu'un qui va chercher des opportunités. He's a go-getter. Je voudrais beaucoup travailler avec cette personne. Et pour le CV de Heidi, ils disaient tous que c'est une personne très compétente, mais qu'elle avait l'air un peu trop agressive, que c'est pas le genre de personne avec qui on voulait travailler. Et ça, ça m'a tellement marquée, parce que là, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que le fait que mon nom, c'est Julie versus Julien, est-ce que ça va faire une différence dans ma carrière? Est-ce que mon CV va être lu différemment? maman. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment tout questionner puis à m'impliquer beaucoup dans toutes les actions des femmes en sciences, puis vraiment d'essayer de faire une différence pour qu'on change la société puis que ça devienne vraiment une société égalitaire.
Jusqu'à l'université, vous avez étudié dans des écoles de filles, donc comme ici aujourd'hui. Par contre, c'est ça, arrivé à l'université, vous étiez plus que 5 sur 120. Les étudiants estimaient quand même que les filles avaient mérité leur place, donc il me semble que jusque-là, ça avait bien été. Mais vous avez quand même deux histoires à nous raconter qui sont croustillantes. Alors écoutez bien.
À la faculté, au niveau du baccalauréat, on n'était pas beaucoup de filles. On était environ 12% de filles pour toute la faculté. Mais ça avait bien été parce que on passe un concours d'admission, donc tous ceux qui sont là ont leur place. Mais c'est une fois diplômée, la première histoire se passe sur un chantier. Donc je vais sur le chantier une journée, je passe, tout va bien. Je vérifie ce qu'il y a à vérifier, puis les responsables du chantier, les ouvriers sur le chantier me saluent. Madame ingénieure, oui, madame ingénieure, oui, tout s'est très bien passé. Je retourne le lendemain parce que je devais faire un suivi plus serré, mais je retourne le lendemain avec mon mari. Et puis là, du coup, j'étais devenue madame, la madame de l'ingénieur. Mais les mêmes personnes que j'avais rencontrées la veille ont pris mon mari pour l'ingénieur. Et là, je pourrais dire, on est au niveau d'un chantier, des ouvriers. Oui, ça peut passer, mais la deuxième histoire me montre que le biais est présent partout. Je suis invitée chez des amis. Mon mari, lui, il est de l'autre côté de la table et un invité arrive et on lui dit « Mais on va vous présenter l'ingénieur. » Mais lui, il était juste en arrière de moi. Et puis lui qui se penche pour passer à travers la table, de l'autre côté de la table pour saluer l'ingénieur. Donc, des stéréotypes qui sont quand même assez forts. Je l'ai pris en blague.
Est-ce que Julie, vous avez été sujette à des remarques comme ça aussi ou des histoires de ce genre?
Oui, quand même. Ben, j'ai déjà eu beaucoup de commentaires quand je leur dis que je suis professeure de physique. Ils me disent, mais tu n'as pas l'air d'une physicienne ou d'un physicien. Je suis comme, ah oui, mais de quoi a l'air un physicien? Quand j'avais été embauchée en tant que professeure, j'ai eu plusieurs collègues qui m'ont dit que j'avais seulement eu cette opportunité parce que j'étais une femme et pas un homme. Et souvent, dans ce genre de commentaires, au début, on est peut-être surpris, puis on dit « Oh non, la personne est gentille, elle veut pas dire quelque chose de méchant. » Mais par la suite, on réfléchit, puis on dit « Oh, c'est pas très gentil, finalement. » Une des façons que j'ai trouvé à répondre à ce genre de commentaires, c'est de questionner la personne, c'est de dire « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que tu as dit ça? » Puis des fois, juste ça suffit à prendre 2 minutes puis dire « Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que j'ai dit ce genre de commentaire? »
Et justement, quelles sont vos idées de solutions pour que, certes, être plus nombreuses et avoir plus de diversité en général, mais aussi qu'on s'y sente bien, ma foi, quand on est dans ce monde scientifique-là?
C'est de se faire voir. C'est de prendre la parole. D'ailleurs, j'anime aussi une émission à la télé qui s'appelle « Génie d'ici ». Dans cette émission, je rencontre des ingénieurs. Naturellement, si vous regardez les épisodes, il y en a 6, il y a 2 femmes seulement qui sont rencontrées dans l'émission, mais parce que les équipes de projet sont encore un peu comme ça. Mais... Et depuis, il y a comme... En fait, je me sens bien. C'est de sortir un peu l'ingénieur, de sortir le scientifique dans sa bulle. Et puis d'ailleurs, la deuxième saison s'en vient.
Et Julie, vous avez fondé le comité de diversité en physique dans votre département à l'Université de Montréal. Donc, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites?
Quand moi, je suis rentrée en tant que professeure, c'était en 2014. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun groupe de personnes au département qui voulait vraiment s'investir dans la question de pourquoi il y a moins de femmes en physique ou en sciences. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions? On a fondé ce comité et notre but, c'est vraiment de rendre le département beaucoup plus accueillant, inclusif. Puis, c'est de créer un environnement pour que les femmes se sentent à l'aise, qu'elles se sentent peut-être pas en minorité parce qu'il y a plein d'hommes autour. On fait plein d'activités, on fait des conférences dans les écoles, dans les cégeps. On fait beaucoup de petites formations, justement, sur l'étude des CV, c'est le fait de changer le prénom, c'est quoi les solutions. Donc, on présente des petites formations comme ça pour au moins rendre toutes les personnes dans le département conscientes que c'est un problème qui existe. Peut-être un commentaire que j'aurais pour améliorer la situation. Un des aspects qu'on voit souvent, par exemple, dans des réunions, c'est que les femmes vont peut-être rentrer dans la salle de réunion, mais ils vont jamais s'asseoir en avant de la classe ou en avant de la réunion. Ça va être plus les hommes. Puis ça, il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. Et donc, ce que je vous dirais comme conseil, c'est vraiment, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à prendre votre place. Asseyez-vous en avant. Puis ça, ça peut vraiment faire une différence. Vous allez être mieux vu. Vous allez pouvoir plus interagir, plus participer. C'est vraiment quelque chose que j'encourage.
Vous auriez quoi comme conseil à donner à nos auditrices et auditeurs, mais aussi aux jeunes filles ici pour poursuivre en sciences et persévérer?
Il y a plusieurs façons. C'est de se faire aider. J'ai eu une étudiante qui m'a dit, puis ça m'avait beaucoup frappée, elle m'a dit, ce qui m'encouragerait à continuer en sciences, c'est qu'on sache que je suis là, que j'existe. Donc, que le professeur ou l'enseignant pense qu'il y a des filles dans la classe et adapte peut-être le cours. Donc, ça fait une grande différence dans l'approche de l'enseignement pour les filles et ça leur permet de persévérer. J'avais parlé tout à l'heure aussi des bourses. Ces jours-ci, il y a beaucoup d'universités qui ciblent les filles. Et donc, il y a un accompagnement, il y a des adaptations qui se font. On le voit à l'ETS. D'ailleurs, il y a une campagne Objectif Féminin Pluriel qui met l'accent sur les filles en sciences. Parce que de plus en plus, on est obligé de se spécialiser. C'est plus difficile pour les filles, des fois, de poursuivre. On a parlé de carrière, d'enfants, de vie sociale. Donc, les bourses permettre aux filles de persévérer et de continuer.
Si vous aviez été un homme, comment cela aurait été différent, mesdames?
En fait, la première réponse qui me vient en tête, c'est que si j'avais été un homme en 2006, je n'aurais pas quitté Haïti. Je serais restée parce que j'avais une carrière très intéressante. J'avais des perspectives d'emploi. En fait, tout était ouvert. Tout était, à ce moment-là, très positif. Il y avait moins de problèmes politiques. Et puis, je me serais dit, probablement, mais je suis un gars, je peux continuer, je peux toffer en Haïti. Et puis, donc là, j'aurais raté tout ce bout que j'ai vécu.
Vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et vous, Julie?
Je pense que, étant donné comment j'ai été élevée et tout ça, je pense pas que ça aurait fait une grande différence dans ce sens-là, mais je suis pas sûre que ça aurait été plus facile de prendre ma place dans le domaine, juste de peut-être avoir la confiance pour être là. Donc ça, c'est un aspect vraiment important. Puis je dirais que maintenant, on est quand même bien, on a des choix, on peut choisir la carrière qu'on veut. Si on avait posé la même question à ma mère, par exemple...
Against COVID-19 is now underway for priority groups. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to follow the vaccination sequence planned for your area and book your appointment online. If necessary, you can also call 1-877-644-4545. Once you've been vaccinated, it's important to continue to protect yourself by following the basic health guidelines. The vaccine, a safe way to protect ourselves. A message from the gouvernement du Québec.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Whose data? Our data. When you're not paying for a product, you are the product. Especially in web and email services, where multinationals compete to manage your communication so they can make a profit off of the private communication you are producing. Coombit is a worker cooperative trying to help small organizations or individuals get their email, website creation, and website hosting services off corporate services such as Google. For more information, contact us at coombit.org or email at info@coombit.org.